Bon, je suis parti sur une question qui était celle des flux, et à partir de l'envie de tenter de faire une sorte de parcours autour de la notion de flux, en me rendant compte que cette notion, qui est évidemment pas toute neuve, en même temps beaucoup marqué un paysage théorique, en tout cas dans le champ de la philosophie, pas nécessairement sur la base des flux informationnels, mais d'une manière plus large, autour d'une notion de flux qui, toutefois, me semblait pouvoir apporter quelque chose dans notre réflexion, d'autant plus qu'elle introduit un élément qui me semble extrêmement important, qui est la question du cerveau et de la relation entre flux, cerveau et agencement technologique. Et donc c'est ce qui n'est peut-être pas un détour, mais c'est cette irruption de la question du fonctionnement cérébral qui a retenu mon attention et qui m'a semblé être intéressante à prendre en compte. Alors du coup, je suis parti sur l'idée que les flux avaient comme parmi les différents intérêts qu'ils pouvaient représenter, avaient celui d'articuler des réalités que l'on a d'habitude tendance à considérer comme intérieures et qui sont de l'ordre de la pensée, à des réalités que l'on a tendance à considérer comme extérieures, par exemple les flux d'informations, les flux sonores, etc. Donc c'est cet élément qui a été le départ. Mais avant d'entamer ce parcours, je voudrais faire quelques remarques autour de l'idée de flux ou de la notion de flux. La première de ces remarques, c'est que il est difficile de concevoir un flux en lui-même. Un flux, ce n'est pas un objet, enfin objet entre guillemets, ce n'est pas une réalité isolée, ça ne se conçoit pas comme une réalité isolée, mais et du coup ce n'est pas seulement un processus linéaire, mais un flux, ça se conçoit au sein d'une totalité dans laquelle se dépense et se dispense de l'énergie sur le mode de la circulation et du déplacement, mais aussi sur le mode de la résistance et de la captation, de sorte que la notion de flux me semble immédiatement engager quelque chose qui est de l'ordre d'une notion de milieu et qui fait que le flux se joue ou se pense dans un milieu. La deuxième idée, c'est que l'un des intérêts de la notion de flux, c'est qu'elle n'engage pas seulement quelque chose qui est de l'ordre de la vitesse ou de la lenteur, mais elle engage d'autres dimensions, et en particulier, évidemment, quelque chose qui est de l'ordre de la tension et quelque chose qui est de l'ordre du débit. C'est-à-dire qu'il y a d'emblée une nature multidimensionnelle du flux. Et par là, le flux n'est pas seulement un déplacement, mais le flux, c'est une variation, c'est un ensemble de modulations, donc variation d'état, dans lequel toute une série de paramètres entrent en jeu, et ces paramètres constituent en tant que tels un premier élément d'une réflexion. À partir de là, la question se posait un petit peu de savoir ce que c'est qu'une rythmicité dans le flux, ou qu'une temporalité propre du flux. Dans la mesure où, quand on conçoit temporalité ou rythmicité, on conçoit quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une successivité temporelle, alors qu'avec le flux, on est devant une dimension qui est plus complexe que celle de la linéarité d'une succession. Voilà, donc ça c'était l'un des premiers éléments. Le deuxième catégorie de réflexion par rapport au flux, c'est que le flux ne se manifeste que relativement à des pôles que le flux traverse et à des pôles qui le modifient en même temps que lui les modifie. De sorte, si vous voulez, que c'est dans la relation des pôles et des flux que peut se concevoir l'idée du code et le fait qu'un flux, c'est quelque chose qui est encodé ou qui est décodé et que c'est dans la relation des pôles et du flux que se joue ce phénomène du codage. De ce point de vue-là, le flux engage donc des instances qui sont des instances de filtrage ou, si vous préférez, des transformateurs qui lui imposent leur propre logique. Voilà, le flux donc traverse les pôles et il est capturé, il est accumulé, il est transformé, il est encodé, de sorte que le flux n'est pas seulement ce qui circule, mais il est aussi ce qui circule entre énergie et code, entre force et règle, entre quelque chose qui est de l'ordre de l'innommable et quelque chose qui est de l'ordre du nombre ou du nominal. Ces deux faces du flux, c'est-à-dire la face du code et la face de la dépense ou de l'énergie, sont à la fois complémentaires et elles sont en même temps incomplètes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois nécessaires et qu'elles sont en même temps insuffisantes. Je veux dire par là qu'il est nécessaire d'engager quelque chose qui est une troisième dimension ou une troisième instance, une instance qui est fonctionnelle ou interprétative ou critique. Et cette troisième instance recouvre et en même temps n'achève pas ou ne sature pas la question de la réflexion du flux. Alors je vais essayer de donner consistance après à ce que je vais essayer de, ce que je suis en train d'essayer de dire. Mais ce qui me semble important pour l'instant, pour, à donner comme repère, c'est entre ce qui est de l'ordre du flux et ce qui est de l'ordre du code, et d'une troisième instance qui est donc cette instance fonctionnelle ou interprétative ou critique, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la déperdition, de la perte, si vous voulez. Il y a toujours quelque chose qui échappe ou qui fuit. D'où le titre que j'ai donné à cette intervention qui est « Flux, stock et fuite ». Entendant évidemment le mot fuite dans un double sens, c'est-à-dire le sens où quelque chose fuit, court, s'éloigne, et la fuite au sens où un récipient fuit, où il y a de la fuite, où il y a de la perte, où il y a de la disparition. Voilà, à partir de là, mon point de départ, qui était à la fois la première idée que j'avais, c'était qu'il existe, me semble-t-il, un modèle dans lequel se constitue une approche de l'idée du flux fait matrice, ou si vous préférez, qui, par rapport aux réflexions que je vais donner ensuite, apparaît comme une sorte de soubassement, de couche, comment je pourrais dire, de couche porteuse, qui n'est pas nécessairement citée, qui n'est pas nécessairement évoquée, mais qui me semble toujours présente et déterminante. Cette référence, c'est celle des textes des années 40, en particulier des textes de McCulloch et Pitts, qui touchent à la question de ce qu'on a appelé le neurone formel, ou le neurone de McCulloch et Pitts. Alors, il y a en particulier un texte très célèbre, qui est à la fois assez connu et peu lu, qui date de 1943. Et ce texte est important parce que c'est celui dans lequel on trouve, me semble-t-il, pour la première fois, une expression logiquement et technologiquement constituée de l'analogie entre le cerveau et les machines informationnelles, ou plus exactement, pour être clair, on y trouve quelque chose qui est à la fois le concept de la machine informationnelle conçue comme un cerveau artificiel, mais en même temps, réciproquement, le concept du cerveau comme machine informationnelle. Et je ne suis d'ailleurs pas sûr que cette façon de présenter les choses dans les deux sens soit parfaitement symétrique. C'est-à-dire qu'entre la conception de la machine informationnelle comme cerveau et la conception du cerveau comme machine informationnelle, il y a un bâillement, il y a déjà ce que j'ai indiqué au départ, c'est-à-dire qu'il y a une perte, qu'il y a quelque chose qui fuit entre les deux. Et c'est ce quelque chose qui fuit que je vais essayer de me réapproprier, ou en tout cas que je vais essayer de suivre dans le prolongement. En tout cas, ce texte, ou ces textes, il y en a plusieurs, sont au départ d'une question qui va devenir une question tout à fait essentielle dans l'histoire de la philosophie depuis un demi-siècle. Et dont on pourrait énumérer à l'envi l'incroyable nombre de textes qui la scandent. Et cette question, évidemment, c'est celle de la relation entre la pensée et le calcul, et en particulier celle de la question de la réduction de la pensée au calcul. Et pour le dire tout de suite, au second plan de cette réflexion ou de ce questionnement sur la pensée et le calcul, il y a un troisième concept, c'est-à-dire qu'on a toujours la même structure flux, code et forme recouvrante, instance recouvrante. Et là, le troisième concept, comme on va le voir, c'est le concept du sujet. C'est dans cette histoire-là, qu'est-ce que devient le sujet ? Et c'est ça qui fait l'objet certainement en grande partie de la fuite, c'est-à-dire que la fuite porte autour de l'idée, autour du concept du sujet. Alors dans le texte de McCulloch et Pitt, les neurones sont considérés d'une manière extrêmement schématique comme des pôles ou des cellules discrètes qui fonctionnent selon deux états, qui sont des cellules qui ont un fonctionnement binaire, positif ou négatif, actif ou inactif, le 1 ou le 0. C'est-à-dire que ces cellules reçoivent des impulsions, ces cellules vont émettre des impulsions, et elles vont le faire en fonction d'un seuil, qui est un seuil quantitatif qui les caractérise en tant que cellules, et qui font qu'à partir d'une, deux, trois ou d'un nombre déterminé d'impulsions entrantes, il va y avoir ou pas une impulsion en sortie en fonction de l'existence facteurs qui sont des facteurs d'accumulation ou des facteurs d'inhibition. Cette idée de l'inhibition qui fait son entrée à l'occasion de ce texte est évidemment une idée extrêmement importante, un concept extrêmement important, et qu'il nous faut maintenir, c'est-à-dire que ce qui caractérise l'articulation du flux sur des pôles, eh bien, c'est ce jeu qui va exister entre les liaisons actives et les fonctions inhibitrices dans les liaisons. Bref, on doit donc imaginer des structures qui sont des structures cellulaires, dans laquelle structure chaque cellule est un permutateur qui est positif ou négatif, et qui, en fonction du fait que cette cellule va émettre une impulsion, et qu'elle émet une impulsion parce qu'elle additionne des impulsions entrantes, ou parce qu'elle ne retient que l'une des impulsions entrantes et pas des deux, c'est-à-dire en fonction du fait qu'elle a une structure en « et », une impulsion et une autre impulsion, ou qu'elle a une structure en « ou », une impulsion ou une autre impulsion, ou qu'elle puisse additionner les formes en « et » en « ou », eh bien, on va avoir un codage qui va pouvoir s'effectuer de sorte que la succession ou la circulation des impulsions se traduit par un calcul binaire, qui est un calcul binaire d'opérations logiques, qui va pouvoir s'effectuer sur la base la logique de Boole telle qu'elle a été constituée au XIXe siècle, et qui va être formalisée par McCulloch et Pitts en fonction des travaux de Carnap, forme qui ensuite va être en quelque sorte modernisée et simplifiée par Minsky dans les années 60. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ici tellement la forme du calcul, ce n'est pas la structure du calcul binaire. Ce qui m'importe, c'est que simplement cette idée soit à peu près claire. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le modèle de McCulloch et Pitts, vous voyez bien se définir deux plans. Un plan qui est celui des impulsions et de la circulation des impulsions, et un autre plan qui est celui de l'articulation et de l'enchaînement des cellules, qui sont donc des opérateurs binaires et qui font office en quelque sorte d'éléments fixes dans cette circulation. Donc on a bien les deux plans qui sont d'un côté un plan de type énergétique, des impulsions électriques sont données, hein, une circulation d'impulsions électriques se fait, et un second plan qui est un plan de cellules ou de pôles entre lesquels circulent les flux. Ce « entre » doit immédiatement être qualifié, c'est-à-dire que quand je dis « entre », je veux dire à la fois « entre les pôles », mais je veux dire à la fois les pôles entre les flux, c'est-à-dire que les pôles sont à la fois, ou les cellules, si vous voulez, sont à la fois réceptrices et émettrices d'impulsions. On peut donc prendre la logique dans ces deux faces, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien considérer que ce qui circule, c'est ce qui circule entre les cellules, mais on peut aussi bien considérer que les cellules sont exactement ce qui filtre et ce qui balise la circulation des flux. Ou si vous préférez, un plan ne réduit pas l'autre. Et dans le modèle de McCulloch et Pitts, il n'y a pas de commencement absolu ni de fin absolue. Il y a évidemment des commencements, c'est-à-dire qu'il y a des entrées au système, par exemple la perception, si on prend le modèle du cerveau, il y a des excitations qui proviennent des sens, il y a des excitations qui vont se traduire par exemple par de l'action, par des gestes, mais en même temps, il y a bien la place pour une activité spontanée du système, ou si vous préférez, nous ne sommes pas simplement devant un modèle dans lequel il y aurait une sorte enfin un calme, rien ne se passe, puis il y a une entrée et il y a une sortie. C'est quelque chose d'un peu plus complexe que le modèle qui a été utilisé par la cybernétique, qui est le modèle de la boîte noire, issu du behaviorisme, mais on a là quelque chose d'un petit peu plus compliqué qui permet tout à fait et d'emblée de penser qu'il y a une activité spontanée du cerveau, c'est-à-dire qu'il y a en permanence du flux. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas à l'intérieur même du modèle d'origine absolue ou de fin absolue que la notion de flux peut totalement prendre sens, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que les cellules prennent place dans un flot qui est le flot de la circulation des impulsions, de la même manière que les cellules viennent donner son existence à ce flot, ce n'est que parce qu'il y a les cellules que le flux existe et qu'il fonctionne. C'est un petit peu en ce sens que je disais que les deux plans, le plan en quelque sorte énergétique et le plan logique, sont à la fois indissociables, ils sont à la fois d'une certaine façon complémentaires et ils sont en même temps insuffisants, c'est-à-dire que l'un ne recouvre pas entièrement l'autre, il ne se complète pas entièrement, Et il y a entre les deux quelque chose qui est de l'ordre de la perte. Ici, dans le modèle que je vous donne, la troisième instance, c'est-à-dire ce qui recouvre cette structure sur un plan à la fois fonctionnel et théorique, c'est le concept de machine informationnelle. Et c'est le concept de machine informationnelle qui est d'une certaine façon un concept programme et qui, c'est pas seulement un concept, c'est en même temps un programme, mais c'est un programme qui s'organise autour d'un concept. Et ce recouvrement me semble important, ne serait-ce que parce que les éléments que nous connaissons et qui, en quelque sorte, manifestent ou donnent existence à ce concept programme, eh bien, ces émergences technologiques qui lui donnent corps, comme par exemple l'ordinateur, lui donne corps par rapport à la préexistence du programme. C'est-à-dire que quand on dit que l'ordinateur est un modèle du cerveau ou que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, c'est faux, c'est historiquement et épistémologiquement faux. L'ordinateur n'est jamais qu'une expression d'une machine informationnelle, il n'est jamais qu'une modalité d'existence d'une machine informationnelle, et le concept programme de la machine informationnelle dépasse largement l'existence des ordinateurs. C'est même parce qu'il la dépasse, c'est parce que les ordinateurs ou les réseaux d'ordinateurs s'adossent à ce concept programme que cela a un sens de poser la question du rapport entre la machine et la pensée. C'est au niveau du concept programme que ça a un sens, beaucoup plus qu'au niveau de telle ou telle manifestation réalisée qui peut lui donner d'une certaine façon corps, comme par exemple l'ordinateur. Ça signifie simplement que nous sommes face à une sorte de double mouvement ou de double processus qui est à la fois le processus d'une sorte de matérialisation machinique d'un concept et qui est en même temps une dématérialisation de la machine. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faudrait penser simultanément, c'est à la fois ce qui relève de la dématérialisation de la machine dans le concept de la machine informationnelle et ce qui relève de l'incarnation de la machine informationnelle, par exemple à l'intérieur des ordinateurs. Et là encore, vous voyez, dans ce qui fait aller-retour entre ces deux notions, il y a évidemment quelque chose qui fuit, qui se perd, et c'est cette perte qui m'intéresse, et c'est celle qui justifie, d'une certaine manière, le démarrage que je fais dans un parcours qui, à ce moment-là, semble, en tout cas dans un premier temps, se mettre tout à fait à côté de la tradition cybernétique ou cognitive, en tout cas conçue en un sens étroit. Effectivement, l'autre étape, c'est celle d'un texte de Deleuze. Enfin, il était inévitable, en parlant de flux, de passer par Deleuze, parce que s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur la notion de flux, c'est bien Deleuze. Mais j'ai préféré, plutôt que d'aller dans la référence au texte, majeur ou fondamentaux de Deleuze dans ce sens, en particulier Mille Plateaux, j'ai préféré m'intéresser à un texte assez court qui est la retranscription d'un cours que Deleuze a fait en 1971 et qui est intitulé « La nature des flux ». Et dans ce cours, on assiste à quelque chose de très intéressant, c'est que Deleuze reprend cette double relation des flux à ce qu'il appelle des pôles, et c'est pour cela que je me suis permis d'appeler les cellules de McCulloch et Pitts des pôles, enfin, d'une certaine manière ça en sont, mais Deleuze reprend exactement la même matrice, mais il la reprend à propos de l'économie, c'est-à-dire que ce qui lui sert de modèle pour penser dans ce texte les flux, son champ de référence, c'est l'économie. Et il dit ceci, excusez-moi, mais je vais donner quelques citations, je vais citer plusieurs fois ces auteurs, je ne le fais pas, vous allez voir, pour, justifier ce que je dis, je le fais parce que ce qui se passe dans ces citations m'intéresse, parce que c'est ce qui se passe dedans qui fait moteur de la suite. Alors, la première de ces citations est celle-ci. Deleuze donc dit « La notion de pôle implique et est impliquée par le mouvement des flux, et elle nous renvoie à l'idée que quelque chose coule, que quelque chose est bloqué, quelque chose fait couler, quelque chose bloque. » Évidemment, vous voyez apparaître là la notion d'inhibition, en même temps que la notion d'action qui était en jeu dans le modèle de McCulloch et Pitts. Pour simplifier, le point de vue de Deleuze, c'est que dans l'économie capitaliste, les flux, que ce soit des flux de marchandises ou de monnaie, ou que ce soit des flux de travailleurs, des flux de personnes, que les flux sont donc interceptés par des pôles qui sont des individus ou des entreprises, et que la façon dont ces flux sont filtrés ou d'une certaine façon, mais vous allez voir que le terme n'est pas tout à fait adéquat, encodé par ces pôles, c'est, dit Deleuze, qu'ils sont exprimés dans un système comptable. Et j'insiste sur cette notion de système comptable. Et ce qui se trouve défini par le système comptable au niveau d'un pôle, c'est un stock. De sorte que les trois notions de flux, de système comptable et de stock sont solidaires et qu'elles font système. Il est d'ailleurs intéressant, partant de ce système, de ces trois notions, hein, c'est-à-dire flux, système comptable et stock, il est intéressant de voir que c'est l'une des façons qui nous permettrait d'approcher certaines caractéristiques du passage entre le capitalisme classique, en tout cas le capitalisme de type fordien, et quelque chose que l'on pourrait appeler le capitalisme post-fordien. Je veux dire par là qu'il y a toute une série de dénominations ou d'appellations qui essaient de rendre compte ou de désigner ou de viser cette transformation profonde de nos sociétés auxquelles nous sommes en train d'assister et qui s'opère au tournant des années 70-80 en Occident. Toute une série d'appellations qui contiennent et qui tentent de rendre compte de ce qu'on appelle la mondialisation, et que l'on va appeler, qu'on peut dénombrer, hein. Il y a la postmodernité, le capitalisme cognitif, l'économie de la connaissance, la société post-industrielle, d'une manière peut-être plus juste que post-industrielle, parce que l'industrie n'a absolument pas disparu. Il y a aussi l'appellation ou la désignation d'un capitalisme ou d'une société hyper-industrielle, ce qui me semble plus juste et plus intéressant, et vous allez voir que c'est en particulier Bernard Stiegler qui utilise cette expression d'une société hyper-industrielle. Et enfin, il y a aussi une appellation qui est utilisée par un certain nombre d'auteurs, par exemple par Paolo Virno dans « Grammaire de la multitude », et qui est celle d'une société post-fordienne. Alors, ce qui m'intéresse là, c'est un peu une digression, mais
Ce qui m'intéresse, c'est d'observer que quelque chose change dans la relation des pôles et des flux, et qu'on pourrait baliser ce changement par un certain nombre de références historiques. Je vous en propose deux. Le premier m'intéresse parce qu'il est exactement contemporain du texte de Deleuze, 1971, et c'est l'annonce faite par Nixon, si je puis employer cette formule biblique, que le dollar dorénavant ne sera plus convertible en or, c'est-à-dire le décrochage de la monnaie par rapport au stock de matières précieuses qui, théoriquement, dans le système économique, lui donnait corps et fond, hein, puisque dans le système économique traditionnel, la monnaie papier, si vous voulez, ou la monnaie numérale, répond ou est théoriquement convertible en or, en matière précieuse. Le deuxième élément, qui est à peu près contemporain, c'est l'apparition d'un certain nombre de stratégies économiques ou de modèles économiques qui ont trouvé justement leur nom dans le flux tendu ou dans cette expression extrêmement intéressante qui est le « just in time ». Qu'est-ce qui se passe dans les deux cas ? Eh bien, dans les deux cas, par exemple, le principe du flux tendu, c'est la tentative de penser un système dans lequel la commercialisation se fait en quelque sorte en temps réel de la production. Ou si vous préférez, et c'est d'ailleurs de ce point de vue-là certainement l'une des premières grandes irruptions sociales du concept du temps réel. C'est-à-dire, c'est l'idée que on va non plus vendre ce que l'on a produit et stocké, qui est le système fordien, on produit massivement, on crée des stocks qui permettent de faire baisser les prix de la production et ensuite on commercialise massivement ces stocks, mais c'est plutôt l'idée que c'est la commande, et c'est, ou la demande, si vous préférez, qui va déterminer la production, c'est-à-dire que l'on va idéalement produire en vendant, c'est-à-dire que c'est au moment où l'on vend que l'on produit. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse en cela, et c'est en partie ce qui justifie cette digression en dehors du texte de Deleuze, c'est que l'existence de cette demande qui est en boucle avec le circuit de la production, c'est qu'elle existe. Elle exige un phénomène qui est un phénomène d'adaptabilité permanente de la production au marché. Sauf que cette adaptabilité n'est absolument pas une singularisation du produit, c'est plutôt une déclinaison d'un certain nombre de variations catégorielles à l'intérieur d'un produit. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, il est bien évident qu'on ne va pas vous produire exactement ce que vous avez demandé, on va vous proposer toute une série de choix et d'éventails de possibilités dans lesquels vous pouvez piocher ou que vous pouvez combiner pour avoir une production. C'est-à-dire que ce qui est visé dans la demande, c'est moins l'individualité de l'expression que quelque chose qui est de l'ordre de catégorie. Ou si vous préférez, d'une particularité, c'est-à-dire ce n'est pas de l'ordre de la singularité, c'est de l'ordre de la particularité, ce qui est visé à l'intérieur de cette logique-là. D'autre part, le découplage évidemment hors dollar, eh bien, c'est une libération du flux monétaire, qui est une libération du flux monétaire qui aujourd'hui joue un rôle qui est absolument déterminant en économie et qui autorise tous les jeux qui sont possibles de faire au sein des variations ou des fluctuations même des échanges monétaires. C'est-à-dire que ce qui devient l'objet du calcul économique, ce sont les variations même du flux monétaire et les écarts qui sont créés entre les flux. Mais ce qui intéresse Deleuze, pour revenir à son texte, dans la corrélation entre les flux, les stocks et les codes, eh bien, c'est l'idée du décodage. Ou, si vous préférez, c'est l'idée que les flux, qui sont socialement codés, c'est-à-dire qui sont nécessairement captés et régulés par l'activité des pôles, vont pouvoir faire l'objet de quelque chose d'un petit peu particulier que l'on appelle, que Deleuze appelle le décodage, et qu'il faut entendre dans le double sens que la notion de décodage propose. C'est-à-dire que quand on parle de décodage, on peut entendre le mot décodage en un premier sens. Ce premier sens, c'est le fait de traduire un code dans un autre code, ou si vous préférez, c'est le fait de décrypter. Mais il y a un second sens dans le mot de décodage, qui est l'idée de briser le code, ou de subvertir le code, ou si vous préférez, qui est l'idée de la libération des flux, de leur débordement, de la place à leur débordement, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de la folie. Et je voudrais donc vous donner une deuxième citation. Il dit ceci: la stricte corrélation du flux et du code implique que dans une société, en apparence, et c'est bien notre point de départ, on ne peut pas saisir les flux autrement que dans et par l'opération qui les code. C'est que, en effet, un flux non codé, c'est à proprement parler la chose ou l'innommable. C'est ce que j'essayais de vous dire la dernière fois, la terreur d'une société, c'est le déluge. Le déluge, c'est le flux qui rompt la barrière des codes. Les sociétés n'ont pas tellement peur parce que tout est codé, la famille s'est codée, la mort s'est codée, mais ce qui les panique, c'est l'écroulement d'un quelque chose qui fait craquer les codes. Et il dit aussi, les auteurs de terreur ont compris, à partir d'Edgar Poe, que ce n'est pas la mort qui était le modèle de la catatonie schizophrénique, mais le contraire. Et le catatonique, c'est celui qui fait de son corps un corps sans organes. C'est un corps décodé. Les flux coulent dans des conditions telles qu'ils ne peuvent plus être décodés. Ce par quoi on redoute les flux décodés, le déluge, c'est que lorsque les flux coulent décodés, on ne peut plus opérer des prélèvements qui les coupent. Pas plus qu'il n'y a de codes sur lesquels on puisse opérer des détachements de segments permettant de dominer, d'orienter, de diriger les flux. Vous avez donc quelque chose chez Deleuze qui nous dit, voilà, les flux sont à la fois codés et en même temps, quelque chose peut apparaître qui est de l'ordre d'un décodage absolu, c'est-à-dire quelque chose comme l'irruption du flux en dehors ou au-delà de tout système de codage. Et c'est là qu'il y a chez Deleuze une idée qui est extrêmement intéressante, qui est celle-ci. C'est que le capitalisme, aux yeux de Deleuze, a la particularité d'agir moins par codage que par l'action d'un système comptable. Et qu'un système comptable, ce n'est pas exactement un code, avec ce que l'idée de code porte d'une attribution de valeur et d'une intégration dans la totalité sociale. Alors il écrit ceci: le phénomène le plus étrange de l'histoire mondiale, c'est la formation du capitalisme. Parce que d'une certaine manière, le capitalisme, c'est la folie à l'état pur. Et d'une autre manière, c'est en même temps le contraire de la folie. Le capitalisme, c'est la seule formation sociale qui suppose, pour apparaître, l'écroulement de tous les codes précédents. En ce sens, les flux du capitalisme sont des flux décodés. Et ça pose le problème suivant: comment une société, avec toutes ses formations répressives bien constituées, a-t-elle pu se former sur la base de ce qui faisait la terreur des autres formations sociales, à savoir le décodage des flux. Ce n'est pas exactement mon propos de reprendre le développement de Deleuze à propos des éléments de cette histoire de la naissance du capitalisme. Je dirais simplement que ce à quoi il fait référence, c'est à ce que Marx appelle, par exemple, l'accumulation primitive et la sauvagerie de l'accumulation primitive, où il fait référence à la déterritorialisation du travail, et en particulier à ce qui a été l'exode rural, où il fait référence au processus de l'enclosure et de la privatisation de la terre au profit du capital financier. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt l'idée du décodage elle-même, y compris dans sa relative obscurité dans ce texte, c'est-à-dire sur cette idée que dans le capitalisme, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une irruption du flux, ou si vous préférez, du décodage au sens absolu, et que cette libération des flux, c'est-à-dire cette incapacité du système social à constituer les flux dans des codes qui sont socialisants à l'échelle et valorisants à l'échelle de la société, eh bien, que ce décodage est une condition de la société capitaliste. Ça m'intéresse parce que ça m'a amené, et c'est l'étape suivante, à m'intéresser à un certain nombre. J'ai 5 minutes ? Un certain nombre d'éléments que nous donne Bernard Stiegler. Il y a chez Stiegler toute une réflexion que vous connaissez sans doute en partie sur la façon dont l'industrie, et en particulier les industries culturelles, ont pour fonction de capter du désir et de l'assujettir en particulier à la consommation et à la rentabilisation du capital. Il dit par exemple ceci: la condition du désir, et nous sommes bien là devant quelque chose qui est de l'ordre d'un flux libidinal, hein, la condition du désir, c'est une économie libidinale qui doit se penser à un niveau collectif. La destruction du désir, c'est la libération des pulsions. Et ça, c'est le sujet de malaise dans la civilisation, quand Freud parle d'une libération de la pulsion de mort. Nous sommes là devant l'idée que l'économie libidinale doit être comprise en relation avec le champ technique, qui a une genèse propre et une logique propre, de sorte que tout se passe comme si le décodage des flux de Deleuze était la condition de l'arraisonnement du désir par l'hyper-industrie médiatisée, telle que l'analyse Stiegler. Ou encore, si vous voulez, que les deux propositions se présentent comme les deux faces d'un même processus. Il faut, si vous voulez, qu'il y ait des encodages sociaux dans lesquels une société puisse se constituer dans son unité, et il faut que ces encodages soient d'une certaine manière détruits pour que les flux ainsi dégagés puissent être captés et orientés vers la consommation de masse. La différence, c'est une différence d'analyse historique par rapport au capitalisme. Mais je vais passer ça, et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin dans le peu de temps qui me reste. La première chose qui m'intéresse ici, c'est que chez Stiegler, le champ technologique est l'objet d'une pensée de l'extériorisation. C'est-à-dire, c'est l'idée que les techniques ne sont pas ce à quoi nous nous confrontons, mais que les techniques, c'est ce dans quoi nous nous constituons comme des êtres singuliers. Ou si vous préférez, il y a chez Stiegler l'idée que la façon dont nous saisissons dans la perception, ou au-delà de la perception, dans la cognition des objets, c'est un effet de synthèse, c'est une activité de type synthétique. Le concept est au départ chez Kant, hein, dans l'activité synthétique de l'entendement. Donc nous saisissons une unité, et nous saisissons une unité perçue à l'intérieur d'une totalité que nous synthétisons dans une totalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on entend un son, on identifie ce son comme son parce que nous le rapportons au son précédent, lequel nous rapportons au son précédent, etc. Et ce qui constitue la sensation tient dans cette rétention fondamentale qui constitue le son comme un objet, mais qui n'est pas un objet scindé et isolé, qui est un objet pris dans une synthèse perceptive. Synthèse perceptive qui se développe comme un objet que l'on peut comprendre et que l'on peut connaître, en quelque sorte à un second niveau, qui a recours à l'imagination et à la mémoire, mais à une mémoire au second degré, dans la mesure où, par exemple, la mélodie que j'ai entendue, eh bien, le lendemain, quand elle n'est plus là, je peux me la remémorer, je peux la chanter, je peux lui donner une existence en tant que mélodie. Or, ce que dit Stigler, c'est qu'il y a un troisième degré de la rétention, il y a un troisième degré de la synthèse, et que ce troisième degré passe par des structures qui sont des structures techniques. Ces structures techniques, ce sont en fait ce qu'il appelle des hypognématas, c'est-à-dire par exemple l'écriture, c'est le livre, mais c'est aussi l'enregistrement sonore, c'est aussi le film, etc., etc. Donc nous nous constituons à l'intérieur de ces extériorisations technologiques. Donc la technique n'est pas ce à quoi nous sommes confrontés, mais la technique est bien ce dans quoi nous nous constituons et nous nous individuons comme sujet. À ce moment-là, nous avons chez Stigler cette idée que cette conscience qui travaille dans son activité de synthèse est elle-même un flux. C'est-à-dire que ce qui fait que nous avons besoin de cette troisième étape pour nous constituer, c'est que l'activité permanente de la pensée dans sa saisie se constitue elle-même comme un flux, de sorte, si vous voulez, que nous nous trouvons devant des nappes ou des niveaux de flux qui se superposent, une nappe qui est énergétique, de type pulsionnel, une nappe qui est de l'ordre de la pensée ou de la cognition, c'est le flux de la conscience, une nappe qui est de l'ordre de l'extériorisation technologique ou des hypognémata, et il s'agit à ce moment-là d'un flux de type informationnel. Et ces flux, évidemment, sont en relation les uns avec les autres. Mais c'est ce qui permet de comprendre que, à partir du moment où les extériorisations technologiques se mettent en mouvement et se constituent comme des temporalités, elles peuvent agir directement sur la conscience. C'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer en synchronisation avec le flux de la conscience. Et de ce point de vue-là, nous avons l'idée, chez Stigler, que ce qui se joue avec l'enregistrement sonore, puis avec le cinéma, et encore plus avec la télévision, c'est bien cette action directe sur la conscience qui nous structure. Bon, je suis désolé parce que je suis obligé de passer par-dessus quelques citations qui étaient importantes, mais je voudrais retomber sur mes pieds de la façon suivante, parce que sinon ce que je viens de dire n'a pas de sens. Quand à partir de là, on revient un petit peu sur la façon dont Deleuze, cette fois-ci, s'intéresse au cinéma, eh bien, on découvre quelque chose d'extrêmement intéressant qui est la chose suivante. Il dit ceci. Le cinéma ne met pas seulement le mouvement dans l'image, il le met aussi dans l'esprit. Et il ajoute, le cerveau, c'est ça l'unité. Le cerveau, c'est l'écran. Je ne crois pas que la linguistique, la psychanalyse, soit d'une grande aide pour le cinéma. En revanche, la biologie du cerveau, la biologie moléculaire, la pensée est moléculaire. Il y a des vitesses moléculaires qui composent les êtres lents que nous sommes. Et ils disent encore plus loin ceci. Le cinéma, précisément parce qu'il met l'image en mouvement, ou plutôt dote l'image d'un auto-mouvement, ne cesse de tracer et de retracer des circuits cérébraux. Là encore, c'est pour le meilleur et pour le pire. L'écran, c'est-à-dire nous-mêmes, peut être un cervelet déficient d'idiot autant qu'un cerveau créatif. Voyez les clips. Leur puissance était dans de nouvelles vitesses, de nouveaux enchaînements et réenchaînements. Mais avant même de développer leur puissance, ils ont déjà sombré dans de lamentables tics et grimaces et des coupures distribuées n'importe comment. Le mauvais cinéma, j'insiste, le mauvais cinéma, passe toujours par des circuits touffés du bas cerveau, violence et sexualité dans ce qui est représenté, un mélange de cruauté gratuite et de débilité organisée. Le vrai cinéma atteint une autre violence, une autre sexualité, moléculaire, non localisable. Ces histoires de vitesse de la pensée, c'est toujours lui, ces histoires de vitesse de la pensée, précipitation et pétrification, sont inséparables de l'image mouvement. Voyez la vitesse chez Lubitsch, comment il met de véritables raisonnements dans l'image, des éclairs, la vie de l'esprit. Alors, cette proposition m'intéresse parce que je voudrais mettre en relation, et ce sera ma conclusion, deux couples de concepts qui sont apparus. Chez Stigler, l'idée de la synchronisation. Synchronisation du flux informationnel avec le flux de la conscience. Synchronisation du flux informationnel avec le flux libidinal. C'est-à-dire captation. Et vous vous souvenez peut-être des réactions très violentes de Stigler, pas que de Stigler, mais particulièrement de Stigler, devant la très célèbre formule de Patrick Lelay de TF1, n'est-ce pas ? Quand il disait que la question était de vendre des parts de cerveau à Coca-Cola et qu'il fallait créer des temps de cerveau disponibles pour. On est très exactement dans cette logique-là. Donc, d'un côté, synchronisation, désynchronisation. De l'autre côté, précipitation ou pétrification. Et il me semble, si vous voulez, que dans ces deux éléments apparaît quelque chose qui est de l'ordre d'une esthétique. Non pas simplement d'une esthétique au sens de la critique d'art, mais d'une esthétique au sens de la signification qu'il y a dans les dispositifs de circulation que l'on établit à l'intérieur des flux, et qui joue sur la relation entre synchronisation et désynchronisation, qui joue sur ce qui est de l'ordre de la précipitation et ce qui est de l'ordre, effectivement, de la pétrification ou de la concrétion. Et il me semble que dans les interventions précédentes depuis deux jours, curieusement, ces notions sont apparues sous d'autres formes, qui sont bien ces notions à la fois de circulation et d'articulation entre les flux, c'est-à-dire la façon de circuler non pas dans le plan du flux, mais entre des champs ou des faisceaux de flux distincts, et la façon de jouer la rythmicité de ces flux pour laisser de la place, justement, à la position du sujet. Le sujet ne se constitue, il ne peut apparaître qu'à partir du moment où se jouent les écarts entre précipitation et concrétion, les écarts entre synchronisation et désynchronisation, ce qui existe déjà dans le cinéma chez Deleuze. Deleuze, à un moment donné, donne un exemple. Il nous parle d'une image et il nous dit, voilà, prenez l'image d'un paysage, d'une rivière qui coule et de quelqu'un qui marche le long de cette rivière. Il y a trois flux, trois temporalités. La temporalité du paysage, la temporalité de la rivière qui coule, la temporalité de la personne qui marche, et qui marche évidemment dans un mouvement aussi de la pensée. Et il y a, dit-il, le travail du plan et du montage, qui constitue un quatrième élément que je rapporterai moi volontiers à ma troisième instance, et qui articule dans un nouveau flux, qui est le flux du film, tous les flux précédents en leur donnant une autre dimension qui est celle propre de l'existence du cinéma. Eh bien, nous sommes d'une certaine façon devant cette même question-là, c'est-à-dire comment constituer des trajets de pensée et non pas des captations de l'attention. Voilà.